écoutez CISM 89.3 FM.
Jeudi 11 avril, vous êtes à l'écoute de Jimmy Neutron. François Micro, bonjour Corinne.
Bonjour François, comment vas-tu?
Ça va bien. Alors
Éclipse plus 3.
Éclipse plus 3. Maintenant, c'est le nouveau calendrier. On parle juste en nombre de jours depuis l'éclipse.
Jusqu'à la prochaine.
Wow, mais ça fait quand même un nouveau calendrier quand même un peu légitime. Parce que la prochaine à Montréal, c'est quand?
Je sais pas, comme on disait dans les derniers jours, moi j'ai jamais réussi à trouver une date pour Montréal.
Mais c'est, mettons que c'est dans longtemps.
Oui, il y a une prochaine éclipse en 2026 en Espagne, mm-hmm. mais elle ne sera pas visible de Montréal.
Non, mais elle est visible en Islande aussi.
Ok, ouais, ben ils doivent être dans le même...
Dans l'espèce de même bande qui va comme du nord au sud, là.
En tout potentiellement...
Cas. Donc, voilà. Pourquoi on parle de l'éclipse? Ben, en fait, de quoi on parle aujourd'hui? On va encore
parler de l'éclipse. On va pas se centrer uniquement là-dessus. En fait, donc, pour ceux et celles qui l'ignoraient peut-être ou qui vivaient sous une roche lundi, il y a eu une éclipse totale qui était visible dans le sud du Québec, mm-hmm. entre autres. Et pour l'occasion, on a, toi et moi, animé une émission spéciale qui était diffusée en même temps que l'éclipse, donc qui était lundi environ de 14h30 à 16h.
Ouais.
Et dans le cadre de cette émission, on a eu deux invités avec lesquels on a réalisé des entrevues.
Mm-hmm.
Et nous, quand on a fait nos entrevues, on avait plein de questions à leur poser.
Au-delà du thème de l'éclipse.
Au-delà du thème de l'éclipse, exactement. Donc, on s'est gardé des questions pas secrètes, mais c'est une deuxième batch de questions pour se faire plus de matériel. Puis là, on vous présente ça aujourd'hui parce que aussi, on trouvait que les réponses étaient super intéressantes.
Mm-hmm.
Puis ça donne un meilleur aperçu de qui sont les personnes
ouais.
qu'on a interviewées
donc,
aussi.
C'est ça. Donc, dans un premier temps, on a Nathalie Ouellet qui est astrophysicienne.
Oui, et directrice adjointe de l'IREX, Institut Trottier de Recherche sur les Exoplanètes.
Oui, puis porte-parole pour l'Agence spatiale canadienne du télescope James Webb.
Oui, qui a fait beaucoup d'apparitions dans les médias,
exact.
La journée de l'éclipse et toutes les semaines précédentes.
Donc, on voulait parler de l'éclipse avec elle de toute évidence. Donc, on a diffusé ça lundi, mais on voulait pas manquer aussi cette opportunité de lui poser des questions sur son travail comme vulgarisatrice scientifique par ailleurs pour tout ce qui est les notions de l'espace. Donc, on va vous présenter ça. Puis ensuite, on a aussi une entrevue avec Philippe Généca.
Exactement, qui était notre deuxième invité, qui lui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal, ici aussi au Centre d'études médiévales.
Mm-hmm.
Et c'était la première fois qu'on avait
Un historien,
exactement. Donc, on avait aussi plein de questions.
Mm.
Puis, les études médiévales, en tout cas, je parle pour nous deux, je pense que je peux me permettre, mais c'est pas quelque chose qu'on connaît très bien, toi et moi.
Non.
Donc, c'était intéressant aussi d'aller chercher des informations complémentaires.
C'est ça. Puis, élément aussi supplémentaire d'intérêt, c'est que sa recherche repose ou porte aussi sur la science au 12e siècle, dans le fond, la science au Moyen-Âge. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à comment étaient perçus les phénomènes naturels il y a fort longtemps.
Exactement. Donc, c'était deux belles discussions enrichissantes dont on va vous présenter les résultats.
Les résultats.
J'ai failli dire les fruits.
Les
je trouvais
fruits.
Que c'était tellement poétique. Puis, mais sinon, François, toi, mm-hmm. qu'est-ce que tu as fait lundi? Parce qu'on n'était pas en direct, là, on l'annonce en grande primeur, c'était préenregistré.
Oui, vous allez vous en rendre compte aussi dans les entrevues que c'était préenregistré avant l'éclipse. Ben, en fait, j'ai pu observer la totalité là, du phénomène.
Tu étais à Montréal?
J'étais sur la rive sud.
Okay, donc, tu as eu un petit peu plus de temps.
J'ai eu un extra couple de secondes.
Okay.
Là. Et puis, ben, c'était fort, fort, fort agréable, fort impressionnant aussi. Comment dire, quand la boule devient toute noire, là,
oui.
puis on voit la couronne autour du soleil, je pense que je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi évident. Je pensais que comme les espèces de couronnes autour du soleil, il fallait un télescope pour la voir,
okay.
puis que, genre, nous, on allait juste être comme, ah, ben, il fait noir. Mais en fait, non, comme... J'ai été vraiment impressionnée que c'était une grosse affaire.
Ben oui, tout à fait. Moi, j'étais au HEC.
Oui.
Donc, juste en face de, ben, juste à côté ici de l'Université de Montréal. Donc, j'avais une super belle vue aussi. Puis, on s'est un peu sur la montagne. Donc, un peu plus en hauteur. Puis, il y avait beaucoup de monde. Ben, évidemment, il y avait le campus de l'université à côté. Donc, plein d'étudiants, mais aussi des habitants des environs. Puis, c'était très drôle parce que quand il y a eu la bande de totalité, il y avait une espèce de brouhaha et des gens qui applaudissent. C'est tout ça, je trouvais ça fascinant d'entendre l'espèce de clameur.
Oui, genre waouh.
Ouais, c'est ça, tout le monde super excité, genre c'est la première éclipse qu'on voit, c'est tellement un phénomène incroyable à regarder, je trouvais ça beau de voir les gens aussi surexcités.
Et bon, évidemment, j'ai porté mes petites lunettes.
Ben oui.
Mais à la fin de l'éclipse là, tu vois, je me suis fait un petit peu avoir le j'ai dû faire oh. J'ai oublié de les remettre, mais tu sais, ça a duré comme une fraction de seconde.
Ouais. Ça aussi, ça m'a fasciné à quel point moi aussi, j'ai un peu comme essayé à certains moments d'enlever mes lunettes, voir si on voyait quelque chose, puis on voit absolument rien sans lunettes, mais on voit le soleil.
Ben, tu sais, moi, t'es ébloui instantanément, là.
Oui, exactement. On voit même pas comme, tu sais, surtout, quand on est dans la première moitié.
Ouais.
Il y a pas de changement. Il y a pas du tout de changement. Je trouvais ça quand même assez incroyable. J'ai aussi essayé de prendre des photos avec mon téléphone.
Au travers de la lunette?
Au travers de la lunette, sans lunette, tout ça. C'était tout plus laid. les photos les plus laides, plus les unes que les autres. Mais bon, c'est pas grave.
C'est ça. Mais en tout cas, je souhaite que mes petits accidents de regard d'éclipse qui ont duré en tout et pour tout moins qu'une seconde, j'espère que mes yeux sont corrects.
Ben, écoute, apparemment, j'ai vu il y a quelques jours, disons mardi, que il y avait un article qui était paru, je pense que c'était soit avec Radio-Canada ou dans la presse, pour regarder, voir c'est quoi les signes, si jamais on a trop regardé le soleil, okay. Est-ce qu'on a des symptômes, mais j'ai pas lu l'article, okay. Mais il disait, tu sais, est-ce que t'as mal à la tête, mal aux yeux, je sais pas quoi, qui serait comme un signe que t'as peut-être regardé le soleil trop longtemps.
Oh,
mais, je sais pas. Je pense que je suis correct. J'ai pas mal nulle part. Je me sens pas chamboulée intérieurement non plus, donc ça devrait aller.
Excellent. Bon, ben, avant de se lancer dans les entrevues avec nos invités, on va commencer en musique.
Tout à fait. On va commencer avec Frankie Faith et Metal, puis après on va poursuivre, comme tu disais, dans les entrevues, une thématique musicale qui est un peu comme celle de lundi, on va pas se mentir.
On continue dans le thème de l'éclipse?
Exactement.
Je suis dans un état de léthargie. Je m'étale, je me dépétale. Comme le métal, je suis déjà percé. J'ai des larmes à verser. Rien ne court, rien ne roule sur mes joues. J'ai pas les choses, au moins j'ai un coup. Dans un coma comme Béatrix. Si je suis dans un roman, je dois être dans un passage qui décrit les pensées de la natrice. Fugit dans le temps d'or novembre. Je me sens comme des dépôts, passer la vie d'artiste. Fais-toi en pas, je vais pas mourir. Je suis juste un peu tanné d'être toujours triste. Si seulement la vie avait un manuel. Je suis sur le pilote automatique. C'est toi qui craques la manivelle. La vie c'est pas du cinéma. Dis-moi, je suis pas Emmanuel. Je devrais pouvoir me contenter. Comme le métal, je suis déjà percé.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et cette semaine, on vous présente les entrevues avec nos experts d'éclipse.
Oui.
Mais sur des sujets qui sont pas l'éclipse.
Exactement. D'ailleurs, si vous voulez aller réécouter les entrevues éclipse, elles sont disponibles, ou du moins elles vont l'être si elles ne le sont pas encore, sur le site de CISM, sur les applications aussi d'écoute en direct et de balado-diffusion. Donc, ruez-vous si jamais vous avez manqué notre émission.
Donc, on vous présente tout de suite la première partie. Donc, l'entrevue de Nathalie Ouellet va être en deux parties. Donc, première partie de l'entrevue sur sa pratique scientifique autre que parler d'éclipse.
Maintenant, peut-être des questions un peu plus people, oui. Comme François a les appelé. T'as fait un bac à McGill. Mm-hmm. Je suis allée lire la bio. Une maîtrise, un doc à l'Université Queen's. Je me demandais où est-ce que tu te voyais à cette époque de ta vie quand on te demandait, j'imagine que la question est venue souvent de « Ouais, mais tu vas faire quoi après tout ça? »
Je dirais que au bac, j'ai le droit d'être à McGill, vous allez pas genre me kick out.
Non,
rien.
Non. On n'est pas comme ça.
C'est bon. Dans ma tête, j'allais être chercheuse, j'allais okay. être astrophysicienne.
Okay. C'est un bac en physique?
Oui, c'est un bac en physique. Et ensuite, la maîtrise, le doc, c'était physique et astronomie.
Okay.
Mais je me voyais plus dans une carrière chercheuse comme okay. pure, mm-hmm. professeure en astrophysique dans un département d'une université canadienne, quelque chose comme ça.
Okay.
Mais vraiment, au cours de mes études, mm-hmm. j'ai eu la chance de faire de plus en plus de vulgarisation scientifique.
Mm-hmm.
Pendant ma maîtrise et mon doc, c'est moi qui gérais le télescope, l'observatoire du campus.
Okay.
Et c'était une grande attraction pour le public.
Okay.
Donc, je faisais la vulgarisation scientifique, mais c'est moi aussi qui s'occupais du site web, qui faisais service à la clientèle avec okay. le téléphone, que je gérais le fonctionnement de l'observatoire. Donc, ça m'a aussi beaucoup appris sur la gestion de projets et d'instituts. Et j'ai réalisé que j'adore la recherche, mais je n'étais pas nécessairement, d'après moi, la meilleure chercheuse. Okay. J'avais pas le meilleur instinct pour ça, mais j'étais beaucoup plus organisée que beaucoup de mes collègues. Et quand même, la communication, ça me venait assez naturellement. Donc, assez rapidement, pendant ma maîtrise et mon doc, j'ai réalisé que je pense que je peux mieux servir la communauté okay. que j'adore, la communauté astronomique au Canada, avec des talents qui me viennent plus naturellement en gestion et en vulgarisation scientifique. Mais j'adore que je travaille encore avec les chercheurs directement
oui.
dans un institut.
Ouais, c'est nice.
Donc, j'aimerais ça nous amener à l'automne 2023. Tu as été nominée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada, mais n'est-ce pas? Non?
C'est pas.
C'est quand même parmi toutes les femmes du Canada, il y en a 100 qui ont été sélectionnées, dont toi. C'était pour la catégorie des leaders émergents. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ça te fait, en fait? Est-ce que c'est...
ça me fait très étrange.
OK.
Ces genres de prix-là, c'est toujours tellement chouette. Et je veux dire, on est heureux, chanceux d'être nominé. C'est sûr que le travail que je fais, je suis fière de mon travail, mais c'est du travail qui est fait avec une équipe vraiment incroyable de personnes, des astrophysiciens passionnés comme moi. Et je veux dire, c'est vraiment la force de notre équipe qui fait que chacun d'entre nous peut être fier de notre travail. Donc mm-hmm. ça, c'est vraiment fantastique. Mais pour ce réseau exécutif des femmes en particulier, c'est plus axé sur les personnes en finance mm-hmm. ou en business ou des choses comme ça. Donc, je suis contente qu'il y ait quelqu'un en science mm-hmm. qui est représenté pour voir que une scientifique peut être influente aussi, pas obligée de seulement être ouais. la CEO d'une compagnie, ouais. je sais pas trop quoi. Donc, c'est quelque chose qui me rend vraiment fière.
Puis, la physique, c'est un milieu qui est quand même traditionnellement masculin.
Oui, en effet.
Est-ce que ça tend à changer? Est-ce que tu as vécu des difficultés justement pendant ton parcours à ce niveau-là aussi?
Je dirais que ça tend à changer, mais ça stagne un okay. peu depuis okay. quelques temps. On peut voir que les choses se sont beaucoup améliorées si on regarde le nombre de femmes qui étaient au bac en physique, par mmh. exemple, dans les mmh. années 90. Mais dans les 10 ou 20 dernières années, on a comme plafonné à 20 okay. ou 25 % de femmes au bac.
Puis est-ce qu'on sait pourquoi?
Non, on n'est pas entièrement sûr, mais il y a un super beau programme qui s'appelle Parité Sciences à okay. l'Université de Montréal et qui, eux, veulent outiller les jeunes femmes, mais aussi les enseignants au cégep. Ils disent que si chaque enseignant au cégep pouvait encourager une seule fille à aller en physique, mm-hmm. on atteindrait la parité okay. dans les programmes de physique au bac. Donc, ça prend un peu beaucoup plus que ça. Surtout que la physique, c'est pas le programme le plus populaire non plus. Là. C'est pas comme bio où il y a des centaines de personnes dans un amphithéâtre.
Mais peut-être donc, que c'est un avantage aussi des programmes de physique, de ne pas être plusieurs centaines
oui,
de personnes dans un
amphithéâtre. Oui, en effet, j'ai ouais. beaucoup apprécié avoir des plus petits cours, des plus petites classes. Mm. Donc, je dirais que j'ai été relativement chanceuse mm-hmm. dans ma carrière. Certainement, plusieurs de mes collègues femmes m'ont raconté des histoires d'horreur vraiment pires que ce que moi j'ai vécu. Entre autres, moi, ma mère, c'est une ingénieure en aérospatiale. Ah, okay, ouais. C'est une immigrante vietnamienne qui est venue ici pendant la guerre. Et j'ai vécu avec ce modèle-là à la maison. Donc, dans ma tête...
C'est un beau modèle.
Oui, c'est ça. Et je me suis jamais dit, est-ce que les femmes peuvent faire de la science? Parce que j'avais un exemple à la maison de quelqu'un qui pouvait le faire. Et mon père aussi était ingénieur. Donc, j'avais les deux. Je ouais. me suis dit... N'importe qui peut faire de la science ou du génie. Donc, mm-hmm. ça m'a beaucoup protégée okay. de ces genres de stéréotypes-là. Je dirais que la chose à laquelle j'ai le plus affronté, c'est... je pense que lorsqu'une femme parle avec une voix assez forte, qui prend de la place, qui dit son opinion, si elle agit comme ça, ça peut être mal perçu. Si un homme le fait, mm-hmm. C'est quelqu'un d'ambitieux, mm-hmm. qui est un bon leader et toutes ces choses-là. Mais je l'ai transformé en force et okay. j'ai pris quand même une bonne place dans ma communauté. Le monde me voit comme une actrice de changement. Okay. Donc, je pense que j'ai été chanceuse dans ce cas-là, mais je sais que c'est pas le cas pour toutes les femmes.
Si c'était toi l'enseignante dans la classe au cégep, qu'est-ce que tu dirais à la fille que tu avais besoin de convaincre?
Oui, donc je dirais que il faut pas qu'elle soit son propre obstacle. Mm-hmm. Souvent, on parle du syndrome d'imposteur pour ouais. les femmes. Et encore une fois, je ne l'ai pas vécu autant que plusieurs de mes collègues, mais même moi, je l'ai vécu un peu. Et on a tendance à dire, « Oh non, si j'essaie de rentrer dans ce programme-là, même si j'arrive à rentrer dans le programme, ça va être une erreur. Ils vont trouver que c'est une erreur. Ils vont me kick out du programme. » Plein de choses comme ça. Tu deviens ton propre obstacle. Ouais. Dis oui à toi-même autant que possible. Et si tu frappes un mur, tu peux juste réévaluer, essayer d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé, redirige un peu ton parcours, il n'y a pas de problème. Mais les filles ont tendance à se mettre des bâtons dans leurs propres roues. Mm-hmm. Et il y a aussi les hommes et la société, plein d'autres personnes qui font ça. Donc, fais-le pas à toi-même mm-hmm. pour commencer. Ouais. C'est ça. Essaie d'être la personne qui est ta plus grande fan.
C'est beau!
Oui.
On a donc bien eu du plaisir à rire comme ça. C'était des beaux moments qu'on a passés avec Nathalie Ouellet.
Effectivement, quelqu'un de super sympathique.
Tout à fait. Sur ça, on va poursuivre en musique, prendre mm-hmm. une petite pause d'entrevue. On va aller écouter Eclipse, ben coudon, d'Élixir de Gombo. Puis on va se retrouver après pour donc la suite et la fin de cette entrevue avec Nathalie Ouellet.
Commence l'éclipse, univers parallèles ne sont plus du même ciel. Satellite s'invite à changer d'orbite sur les traces du Big Bang. Finalement, tout s'éloigne. Désastre, fume les cadastres, perdus dans nos silences, pliés dans nos espaces, j'arpente les sextants, contemplant le néant sur les traces du Big Bang. Finalement tout s'éloigne sur les traces du Big Bang. Finalement tout s'éloigne. Finalement tout s'éloigne. Finalement tout s'éloigne.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et c'est le moment de présenter la deuxième partie de l'entrevue avec Nathalie Ouellet. En fait, c'est comme si c'était la quatrième partie si on inclut le fait qu'il y a déjà eu deux parties lundi. Donc, Nathalie Ouellet, quatrième partie.
Là, justement, il y a l'éclipse qui est aujourd'hui. Il va se passer quoi demain et les jours qui vont suivre, notamment à l'Institut Trottier, mais ailleurs...
On va pouvoir dormir! oui, je veux dire, il y a tellement de personnes à l'IREX et à l'OMM. On y travaille depuis des mois, depuis des années. Il y avait beaucoup de travail en amont. On a un programme d'ambassadeurs. Mm-hmm. On a formé 120 étudiants à l'Université de Montréal et ailleurs pour qu'eux puissent devenir des ambassadeurs pour parler de l'éclipse,
wow.
pour avoir leurs propres événements. Et ça, mes collègues ont beaucoup mené ça. Donc, plein d'initiatives. Et là, on va prendre quelques semaines pour respirer.
Oui.
Laisser ça tout décanté, mais l'été, c'est toujours très occupé pour nous.
Mm-hmm.
On a un programme de stagiaires d'été qu'on va les accueillir en début mai. Et ensuite, c'est la saison des festivals et des conférences. Donc, le Festival Eureka, l'Astrofest qui est au Planétarium de Montréal. Et on a plein de conférences partout au Canada. Donc, ça va repartir en mai.
Ouais.
Et j'ai une question qui est peut-être, je sais pas, là, c'est sur une controverse, mais j'étais pas au courant qu'il y avait cette controverse-là, mais tu es aussi la porte-parole pour le télescope James Webb, le télescope spatial James Webb. Est-ce que le nom est véritablement un enjeu dans la communauté, j'allais dire spatiale, mais je pense qu'on parle plus d'astronomique. Donc, juste peut-être pour les personnes qui sont pas au courant, donc M. James Webb, c'est un ancien directeur de la NASA. Il aurait participé, dans le fond, à nettoyer, entre guillemets, la NASA des personnes LGBT qui travaillaient là. Et à ce point que la revue Science n'utilise que l'acronyme aujourd'hui pour parler du télescope, pour éviter d'écrire son nom au long. Donc, est-ce que l'Agence spatiale canadienne a une position là-dessus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est glissant?
Donc, je dirais que ce l'est particulièrement aux États-Unis.
OK.
Donc, nommer le télescope, c'était vraiment la décision de la NASA, qui est vraiment le partenaire principal dans la mission. Avant, ça s'appelait le Next Generation Space Telescope. Moi, je suis une grande fan de Star Trek, donc j'aurais préféré ça, honnêtement. Et la décision s'est faite de manière un peu unilatérale. C'était... une personne qui a vraiment poussé pour ce nom-là. Et je pense qu'on a beaucoup appris de comment ne pas nommer une mission et un télescope avec ça. Donc, ensuite, il y a eu des enquêtes, de ce que je comprends, aux États-Unis avec la NASA pour voir c'était quoi ou exactement l'implication de James Webb.
C'est quoi l'anguille sous roche, là?
Exactement.
Ouais,
et de ce que je comprends, il n'y avait pas trouvé... des choses qui étaient suffisamment concluantes pour eux, mais beaucoup des astronomes de la communauté plus large n'étaient pas d'accord que c'était pas concluant. Mais nous, l'Agence spatiale canadienne, on n'a pas vraiment du poids dans la décision. Donc, vraiment, la position, c'est on soutient toute la communauté LGBTQ, c'est important qu'ils trouvent leur place dans la société, dans les STEM où ils sont sous-représentés en général. Mais le petit côté positif que j'essaie de mettre là-dessus, c'est James Webb, c'était pas un scientifique.
Okay.
James Webb, c'était l'administrateur de la NASA pendant l'émission Apollo. Et c'est très rare qu'on nomme une mission, un télescope, après quelqu'un qui est pas scientifique.
Ouais.
C'est les scientifiques qui sont mis de l'avant, typiquement. Mais ça prend une énorme équipe d'administrateurs, d'ingénieurs, de secrétaires, de comptables, de gestionnaires, de scientifiques pour lever une mission comme ça. Donc, j'essaie de mettre le spin positif. C'est un rappel que c'est pas seulement les scientifiques qui ont un rôle à jouer. Donc, pour être positif.
Parfait.
C'est bien le positivisme aussi. Peut-être dans les petites dernières questions, encore une fois, très people, c'est quoi ton phénomène astronomique préféré?
À regarder,
à étudier, peu importe.
Okay. À regarder, c'est vraiment l'éclipse solaire totale. Okay. Je dirais, j'ai vu une comète, j'ai vu des étoiles filantes. C'est vraiment rien comparé à une éclipse solaire totale.
Okay.
Mais si j'y vais vraiment plus large, j'adore lorsque les galaxies rentrent en collision. Ça, je trouve ça...
Mais ça arrive-tu souvent, ça?
Ou ça arrive. On a 1000 milliards de galaxies. Oui. Donc, plusieurs d'entre elles sont en collision activement.
Okay.
Mais on ne peut pas le voir avec l'œil nu. Mais un télescope comme James Webb peut bien les voir.
Et tu as eu l'occasion de voir ça?
Des photos. Okay. Des photos, oui.
Ça prend combien de temps, deux galaxies à rentrer? Non, mais je veux dire, c'est juste parce que dans ma tête, une galaxie, c'est un gros amas d'étoiles gigantesques. Fait que le principe de collision est quand même diffus.
Oui, donc il ne faut pas songer à ça comme deux voitures qui rentrent en collision. Ouais. C'est comme deux fantômes qui s'embrassent ensemble. Et ça peut prendre des centaines de millions d'années.
Ah.
Et la Voie lactée est en cours de collision avec sa sœur Andromède.
Okay.
Donc, on va rentrer en collision éventuellement. Mais ce que je trouve beau, c'est à la mi-collision, les gaz rentrent ensemble et se condensent et ça crée des feux d'artifice de nouvelles étoiles qui naissent. Donc, c'est ça que je trouve beau.
C'est quand même un phénomène qui me semble fascinant et inquiétant à la fois.
En tout cas, quand notre galaxie entrera en collision avec sa sœur, je pense qu'on sera plus là depuis longtemps.
C'est dans 5 milliards d'années.
Ah, c'est bon. C'est bon. Il va se passer probablement d'autres choses avec notre soleil d'ici là.
Probablement, oui. Oui, oui, je vous confirme que le soleil va mourir avant.
Un autre phénomène fascinant et inquiétant à la fois.
Je suis pleine de mauvaises nouvelles, je suis désolée.
Mais Nathalie, merci d'avoir été des nôtres. Petite question pour terminer, François?
Moi, c'est complet. Je ne veux pas me créer plus de
astro-anxiété.
Voilà.
Est-ce que ça existe pour vrai?
Il y a beaucoup de personnes. OK, je peux finir avec une petite anecdote.
Oui.
Pourquoi pas?
Après la sortie des premières images du télescope Webb en juillet 2022, on voulait voir c'était quoi la réaction du grand public. Et donc, la NASA a sorti plein de statistiques sur les mots positifs ou négatifs dans des gazouillis ou sur Facebook, Instagram, peu importe. Et je pense que c'était à 80 ou 90% positif, ce qui est très rare en science.
Okay, ouais.
Mais la majorité des mots négatifs, c'était des mots comme anxieux, ou genre je me sens tout petit, ou je me sens insignifiant. Donc, c'était plus relié à genre ce genre de vertige cosmique que plusieurs personnes ressentent.
C'est clair que quand on prend conscience de l'immensité du cosmos, c'est un peu...
Moi, je trouve ça réconfortant.
C'est réconfortant?
Oui, pour moi. Mais je sais que c'est pas le cas pour la plupart des personnes.
Bon, ben,
sur ces mots, oui. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet événement fort spécial.
Merci beaucoup.
Puis
à une prochaine, j'espère. Donc, c'était la fin de l'entrevue avec Nathalie Ouellet. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Nathalie Ouellet d'être passée nous voir en studio et de s'être prêtée au jeu de l'éclipse et aussi de nous parler de sa pratique professionnelle comme chercheuse, vulgarisatrice et plein d'autres choses parce que c'est comme un CV à rallonge un peu.
Oui, tout à fait. Sur ça, on va poursuivre en musique. On va aller écouter Eclipse d'Of Course. Puis on se retrouve après pour donc l'entrevue avec Philippe Genecan.
Super.
Connecté, j'ai le bip qui flash et la mémoire qui flanche, bois et de cash, pas étanche, objecté, pas vraiment d'attache, ni besoin de revanche, j'ai trois écrans, ma job et mon complet, j'suis trop informé, j'prends mes deux Xanax pour le déjeuner, ouais ça me garde relax, jusqu'au dîner, puis j'attends le soir pour finir dans un vieux bar, à coup de shot et de saké, à coup de shot et de saké, à coup de shot et de saké. Trash aussi tendre que trash quand je fêtais. Et si ça me dérange, que mon cerveau lâche, j'ai peut-être juste trop peur de disjoncter. Je dois m'échapper des rythmes monotones qui m'éloignent du groove et du microphone. Je veux du fun qui sonne, je perds déjà. Je faisais mon jour, devient sombre comme une éclipse. We'll be right back.
de l'histoire.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron. Et là, c'est le moment de présenter l'entrevue avec notre deuxième invité. Donc, Philippe Génécan.
Oui.
Peut-être rappeler qui est Philippe Génécan.
Bien sûr, professeur titulaire au département d'histoire de la Faculté d'art et sciences de l'Université de Montréal. Également, membre ou directeur, ou là, j'ai un blanc de son titre exact, mais du Centre d'études médiévales. Il y a aussi, honnêtement, j'avais regardé sa bio avant qu'on le passe en entrevue. Et il fait partie d'un paquet de comités, trucs comme ça à l'université, ailleurs. C'est vraiment impressionnant.
Donc, l'entrevue avec Philippe Génécan en un seul bloc cette fois. Et on se reparle tout de suite après.
Je vais commencer, si tu permets, François. Encore une fois, une question... En fait, c'est pas que c'est une question niaiseuse, c'est que vraiment, j'ai aucune idée de la réponse, mais ça implique quoi de la recherche en histoire? C'est très général comme question, mais je suis complètement clueless.
C'est une question qui mérite une petite réflexion. Vous le voyez sûrement dans mes yeux. Comment est-ce que je vais dire ça? Donc, je pense que ce qu'on peut dire en histoire, c'est que nous disposons d'un certain nombre de ce que nous appelons des sources ou des documents. Mm-hmm. Et ces documents sont des matériaux auxquels on peut poser un certain nombre de questions. Okay. Parce que nous vivons, nous historiens, au 21e siècle. Et il est évident que les questions que nous construisons sont au moins en partie inspirées par ce que nous vivons autour de nous.
Oui.
Pour prendre un exemple un peu plus ancien, au moment où les grands mouvements féministes sont nés, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à poser toute une série de questions sur la position des femmes au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, dans tel siècle, dans telle ville, qui étaient des questions dont on voit bien que l'origine provient d'une expérience quotidienne que nous faisons, d'une évolution de nos sociétés, puis de nous demander, et alors, comment c'était avant ? Et donc ça nous rapporte aux documents. C'est pour ça que je parlais de matériaux, parce que les mêmes documents ont été lus peut-être 50 ans, peut-être 75 ans avant cela, sans cette question-ci, ou avec d'autres types de questions, qui étaient de repérer tel ou tel personnage célèbre, puis de voir comment ce personnage célèbre était devenu aussi fort que ce que disaient les récits.
Okay.
Et donc constamment, on évolue dans nos réflexions et on regarde effectivement le passé. Donc la recherche en histoire consiste à d'abord lire ce que nos prédécesseurs ont écrit, et puis ensuite de regarder ce que les documents nous permettent de dire à propos des questions qui nous intéressent. Puis parfois, malheureusement, la réponse nous échappe parce que les sources se refusent à nous répondre.
Oui. Okay.
Mais justement, vous m'ouvrez une porte incroyable parce que vous avez parlé de documents et de consultation de documents, et qu'on est aussi au 21e siècle. Est-ce qu'il y a une partie ou la totalité, je doute que ce soit la totalité, mais de ces documents-là qui a été informatisé? Donc, est-ce que ça facilite votre travail en tant qu'historien, ou dans certains cas, il faut absolument consulter des ouvrages originaux?
Parce que c'est sûr qu'on a cette image de vieux livres en peau de d'agneau qui sont reliés, puis qu'il faut manipuler avec des pinces et des gants. Puis, donc, un peu cette image-là, c'est quoi la recherche en histoire?
L'image reste partiellement vraie.
Oh. Okay, quand même.
Et j'ai envie de dire heureusement. J'avais un collègue quand je travaillais au Vatican qui disait quand ils auront informatisé toute ma période, je change de période.
Ah oui.
Parce que plus les documents sont anciens, plus ils sont rares. Mm-hmm. Donc effectivement, plus ils sont précieux aussi, et parfois plus ils sont fragiles. Donc il y a une tendance effectivement des dépôts d'archives à essayer de protéger ces documents en les numérisant. Okay. Ça c'est qu'une portion d'ailleurs de l'approche. Que la technologie que nous possédons actuellement nous permet d'avoir des documents anciens, c'est-à-dire la simple numérisation, même avec ou sans reconnaissance de caractère. Mais il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur ce qu'on appelle désormais les humanités numériques, mm-hmm. qui permettent des traitements sériels de ce type de documents. Et donc, plus on a de documents prêts, informatisés, reconnaissables, cherchables, plus on est capable de faire naître, je parlais des questions, de nouvelles questions. On a vu, par exemple, par des recherches de vocabulaire, que certains mots auxquels on n'avait pas prêté tant d'attention dans les textes médiévaux étaient très importants pour comprendre, par exemple, l'emprise de l'Église, comment celle-ci expliquait sa présence, quels mots pouvaient l'exprimer. C'est pas forcément ceux auxquels on avait initialement pensé, et ça peut ouvrir de nouvelles avenues de recherche.
Puis, est-ce qu'avec le temps, la traduction de certains textes va aussi modifier la perception ou créer des nouvelles questions?
Assurément. Mmh. Assurément, la traduction, la compréhension du nouveau que l'on a, puis j'insiste aussi là-dessus tout de même, les travaux de nos prédécesseurs. Mmh. C'est pas que les nouvelles questions naissent sous la douche un matin au réveil. C'est qu'on a lu à ce propos, puis qu'on s'est dit, tout cela est bien intéressant, mais pourquoi il n'est pas allé voir ça? Mmh. Pourquoi elle n'a pas interrogé telle source? Et donc, on construit sur ce qui a été construit avant nous.
J'aimerais revenir sur la traduction, parce qu'on s'entend souvent, même, ben, je sais pas, souvent, je m'engage là, avec ce mot-là, mais j'imagine qu'il y a des textes qui nous proviennent de langues qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, comment on fait pour avoir confiance dans la traduction dans des langues modernes?
Ben, les traductions sont, en fait, tous les traducteurs vous le diraient, finalement constamment révisables. Ça, okay. C'est le premier point important. Et puis, effectivement, pour des langues très rares, le nombre de spécialistes peut être extrêmement réduit.
Mm-hmm. Oui.
Et pour des langues qui nous entourent, hein, des langues autochtones, j'ai eu le plaisir de diriger le centre de langue, l'Université de Montréal, on voit qu'il y en a certaines qui ont presque disparu et qui doivent être revitalisées à partir de très peu de locuteurs et en ayant une compréhension partielle seulement de la grammaire et du vocabulaire. Donc là, c'est un exemple extrême de la question que vous posez. Pour les langues anciennes, on voit bien d'ailleurs que la traduction a un rôle extrêmement important au niveau historique. On a parlé tout à l'heure de Gérard de Crémone, de la traduction de l'Almageste, donc de la mise à disposition de ces textes. Et l'italien le dit encore mieux que le français, mais le traducteur est toujours quelqu'un qui trahit en partie, puisqu'il doit assimiler ce qu'une langue et donc une civilisation dit et la traduire dans quelque chose qui corresponde à la langue d'arrivée. Donc ce travail-là peut être bien souvent refait quelques années, dizaines d'années plus tard pour être amélioré. Mais c'est vrai aussi que les étudiants en histoire et les professionnels de l'histoire essaient de devenir compétents dans ces langues. Par exemple pour nous, pour le Moyen-Âge occidental, essentiellement le latin, parfois le grec.
Okay. Est-ce qu'on parle de la représentation du Moyen-Âge dans les jeux?
Oui, mais c'est ce qu'on a pu comprendre, c'était une partie de votre angle de recherche, la représentation du Moyen-Âge dans les loisirs. Est-ce que l'image collective qu'on a du Moyen-Âge est erronée?
Alors, à nouveau, oui, dans la mesure où on parlerait simplement du Moyen-Âge. Oui, l'image que l'on a est souvent encore d'un Moyen-Âge assez sombre.
Ah, mais c'est exactement ce qu'on disait. Il fait jamais beau, il y a toujours du brouillard, puis on a les deux pieds dans la boîte. C'est ça, le Moyen-Âge.
Et au niveau des sanitaires qu'on a à la maison, c'est plutôt limité. L'eau est froide.
L'eau est froide, c'est ça. C'est dur, la vie au Moyen-Âge.
C'est certainement plus dur que la vie que nous vivons en termes de confort. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais évidemment que toute période comprend plus de densité, de variété que ce qu'on peut résumer en quelques phrases, même quand elle ne fait pas 1000 ans, mais en particulier quand elle fait 1000 ans comme le Moyen-Âge occidental. Et donc, c'est une période qui est difficile d'ailleurs à typifier en une fois. On l'a périodisé traditionnellement au moins en trois parties. On parle d'un haut Moyen-Âge qui commencerait depuis, disons, la disparition des structures de l'Empire romain et puis qui irait jusqu'aux environs de l'an 1000 ou un petit peu plus tard. Ensuite, on aurait un Moyen-Âge central qui commencerait donc évidemment à ce moment-là puis qui irait jusqu'au la peste noire, disons, au début du 14e siècle, qui serait une période de développement. On a parlé de développement économique permettant d'ailleurs l'arrivée des universités, qu'on appelle aussi parfois le beau Moyen-Âge, celui auquel on pense plus naturellement. naturellement, celui des chevaliers.
Oui.
Avant cette époque-là, pas vraiment de chevaliers, pas vraiment de châteaux.
Okay.
Et puis, ce qu'on a appelé le bas Moyen-Âge ou le Moyen-Âge tardif, qui serait les 14e et 15e siècles, les deux derniers siècles du Moyen-Âge, qui mèneraient, qui serait une série de crises, ou du moins qui ont été longtemps ressenties comme une série de crises, à la fois crises structurelles, mais aussi crises épidémiques, qui amèneraient une transformation suffisamment forte de, disons, de l'état civilisationnel pour qu'on puisse parler de naissance d'une nouvelle grande période. Tout cela est un peu artificiel parce qu'évidemment, dans les détails, rien ne fonctionne. Mais comme image globale, ça permet au moins d'avoir des, disons, de très grosses boîtes qui contiennent les spécialistes notamment, mais aussi les sujets pour le travail historique.
Et donc, c'est la boîte du milieu qu'on aime représenter, dans le fond, le beau Moyen-Âge?
Oui, je pense que quand on pense Moyen-Âge, entre guillemets naïvement, c'est-à-dire sans réfléchir particulièrement à quelle portion on pense, comme je dis, on pense au château, au chevalier, à cet état civilisationnel-là qui n'a pas d'armes à feu. Dès le 14e, il y a des armes à feu. Elles sont primitives, mais elles existent, par exemple. Dès le 14e siècle, il y a un développement des villes, mais jusque-là, elles sont petites, mais elles existent déjà. Il y en a peu dans la période précédente. Donc je pense qu'effectivement, on pense au 12e, 13e siècle, quand on pense au Moyen-Âge.
Et est-ce qu'on le représente bien? En fait, c'est ça, ultimement, la question. Qu'est-ce qu'on devrait changer dans la représentation de cette période-là pour en avoir une représentation plus juste?
Ben, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites ces dernières années qui nous proposent des visions un petit peu plus précises, ne serait-ce qu'au niveau visuel. On pense évidemment à des choses comme Assassin's Creed pour des jeux vidéo ou un certain nombre de séries. D'ailleurs, souvent fantastique, quand on pense à Game of Thrones, on a quelque chose qui donne un état civilisationnel du 13e, 14e siècle, avec des cours royales relativement complexes, avec toute une série de vassaux à leur disposition, puis on voit bien de nouveau le matériel militaire. C'est pas que je sois passionné d'histoire militaire, mais simplement c'est souvent évidemment ce qu'on représente parce que la classe dominante, le groupe dominant est essentiellement un groupe de soldats, enfin, de combattants. Donc forcément ils imposent à la civilisation qui les entoure leurs préoccupations et une partie de leurs valeurs.
Est-ce que vous avez des justement là vous avez parlé un petit peu de certains exemples, est-ce que vous avez des œuvres que vous trouvez qui représentent bien puis que vous avez apprécié, que ce soit lire ou voir, que vous nous recommanderiez à justement pour nous mieux nous imprégner de ce à quoi ressemblait potentiellement le Moyen Âge?
Un des ouvrages qui me vient en tête, un roman qui me vient en tête, c'est celui de Ken Follett, Les Piliers de la Terre, qui date maintenant un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il prend un point de vue relativement original. Son personnage principal est un architecte de cathédrale, ou plutôt, au début de l'histoire, un architecte qui rêverait de pouvoir travailler sur une cathédrale. Et donc là, on sort justement de l'habituelle image nobiliaire ou chevaleresque, ou de l'habituelle image religieuse. Et on arrive vers un autre type de métier en ville, donc forcément plutôt à la fin de la période. Un beau livre.
Ok, intéressant.
Je pense qu'on est rendu à notre question finale.
J'adore. Notre ancienne co-animatrice ici à l'émission, Marie-Françoise, a créé une question qu'on se pose souvent entre amis comme ça. Et sa question, c'est « Si vous aviez vécu au Moyen-Âge, quel aurait été votre métier?
»
Sachant que généralement, quand on pose la question, on dit la noblesse ne compte pas comme un métier parce que sinon, c'est trop facile.
Métier rêvé ou métier réel? On a peu de chance d'être effectivement du bon côté, mais...
Bah, les deux. Posons les deux.
Finalement, pourquoi pas un clerc dans une université?
Ah, ok.
C'est ce que j'avais répondu aussi, bien qu'étant femme, ça aurait été compliqué, je pense, mais...
C'est plus difficile, oui. Ouais. L'éducation, vous l'auriez plutôt reçue à la maison.
Ouais. Donc, clair dans une université, puis métier qui aurait été le plus, pas logique, mais...
Probable.
Oh, certainement travailleur de la terre, quelque part dans les campagnes.
Ouais, intéressant.
Bien, merci beaucoup.
Oui, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Donc, c'était notre deuxième invité, Philippe Genécan. Alors, Corinne, toi, t'étais vraiment fascinée par cette recherche en histoire.
Ben oui, parce que après, quand on a terminé l'enregistrement, je lui ai posé genre au moins 5 autres questions. juste des questions plus générales et tout, mais ça.
Sauf comme c'est quoi votre vie à vous?
Ouais, un peu. Mais il nous a dit que justement, il l'a mentionné dans l'entrevue, mais il a travaillé au Vatican quand il était au doctorat.
C'est fou quand même.
C'est fou, ouais, totalement. Puis on a parlé d'archives, puis de trucs comme ça. C'était fascinant, franchement.
Ouais.
J'ai donc, beaucoup apprécié.
Une première pour 10 minutes rondes, d'avoir quelqu'un en histoire qui fait de la recherche histoire et sciences.
Oui, ouais. Puis espérons pas une dernière.
Oh, est-ce que t'as déjà quelqu'un en vue?
Non, pas encore, mais on a une saison d'été qui s'en vient.
C'est vrai qu'on a une saison d'été qui s'en vient. Mon Dieu, grosse annonce.
Oui, grosse annonce, mais on n'a pas les détails encore. Okay. De jours, d'heures et tout ça. On va vous dire ça dans les prochaines semaines.
Non, c'est parfait. Donc, avant de passer, c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de passer à la conclusion, on va aller en musique. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va écouter?
Mais écoute, on va aller écouter Eclipse pour faire changement de Julie Blanche. Puis on se retrouve juste après pour une courte conclusion.
Est-ce que tu penses que tu as épuisé toute la liste des Eclipse dans le catalogue de CSM?
Non, il y en avait d'autres, mais en français, on a fait presque le tour.
C'est bon.
Tout est à
c'est bientôt la fin. En fait, c'est la fin.
C'est la fin.
De Jimmy et Neutron pour ce 11 avril. Donc, on c'est pratiquement Eclipse partie 2.
Oui, on pourrait dire ça.
Mais
presque.
C'est comme éclipse adjacent, parce qu'on on a essayé d'aller ailleurs avec nos invités que sur le thème de l'éclipse.
Éclipse parenthèse.
Éclipse, oui. Éclipse parenthèse.
Écoute, on pourrait lui trouver plein de noms, quoi qu'il en soit. Mais donc, comme on le disait en début d'émission, si vous voulez aller réécouter donc cette première émission sur l'éclipse, c'est disponible sur le site de CISM.
Oui, en date du 8 avril.
En date du 8 avril. Celle d'aujourd'hui va aussi être disponible, comme à l'habitude, sur le site de CISM et sur les différentes applications d'écoute en ligne.
Ouais.
Puis, on vous l'a annoncé brièvement il y a quelques instants, on va revenir cet été pour notre 15e saison.
C'est fou.
Et d'ailleurs, comme... Oui?
Toi, ça va être ta combienième saison?
Moi, j'en ai manqué deux, je pense.
T'as manqué deux saisons dans tes périples européens.
Oui, deux, peut-être trois. Non, deux, je pense.
Deux saisons.
Ouais, deux saisons complètes, puis des bouts de saison, je pense, juste avant de partir.
Mais quand même, depuis les origines.
Oui, ben oui, absolument. Puis d'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions de thèmes à explorer ou de gens que vous aimeriez qu'on invite, écoutez, écrivez-nous soit sur notre page Facebook ou sur notre adresse courriel d'émission qu'on consulte pas très souvent.
Non, on la consulte. Mais aussi, ça peut être aussi que vous faites de la recherche, soit à la maîtrise ou au doctorat, puis vous souhaitez en fait partager votre recherche ou vous souhaitez aussi
faire découvrir
votre domaine de recherche à toutes les auditeurs de Jimmy Neutron. Nous sommes aussi ouverts à entendre votre proposition.
Tout à fait. Donc, écrivez-nous. Puis sur ce, on va se laisser en musique. On va aller écouter Les Chasseurs d'éclipses de Salut, c'est cool. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde.
Bientôt. We'll be right back.
C'est Vincent Pique, Calypsus, la scène locale montréalaise depuis 32 ans. Ça fait 26 ans que j'écoute CISM. Je te conseille de faire exactement la même chose.
Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Créer une BD, c'est faisable. Danser la salsa sans piler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Art visuel, cinéma, communication, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer notre créativité ce printemps, on s'inscrit aux ateliers culturels de l'UDM sur catalogue.vieétudiante.umontréal.ca. En prime, on profite d'un 20$ de rabais sur notre inscription à un atelier avec le code promo CISM893.
Dear criminals.
Vous écoutez CISM 89.3.
Ici Vulgaire Machin, vous écoutez
CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal.
Mais qui met de l'acide dans mon eau potable? Je crois que j'hallucine.
Allô, ici Lumière. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Je vais aller chez nous, j'en venais, parce que j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, faites ce que vous voulez en attendant.
Oui, salut, le Sphinx en direct de Où est-ce que tu sors de Montréal?
Je vais essayer de ne pas être trop émotif.
Bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
T'as-tu aimé ça, la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À matin, il me semble que ça fly.
Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous les mercredis.
C'est correct, gars?
Yo, Montréal.
Danny, je sais pas.
Prends toujours un micro pour la vie. Deux heures de marde.
Salut, ici Canon. Vous écoutez CISM.
Production Nuit d'Afrique présente la superstar malienne Oumou Sangaré, qui a influencé tant Beyoncé qu'Alicia Keys. Oumou Sangaré sera en concert exclusif le 21 avril au MTLUS. Billetterie et infos sur festivalnuitdafrique.com.
Être dans la marge à CISM, ça date pas d'hier.
10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM Montréal.
Salut, c'est Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
Dans la marge de CISM, ça date pas d'hier.
10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM Montréal.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, la marge.
Vous écoutez La Collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée.
Fucking shit.